Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. La maison La Durée en a fait son cœur de métier et certains chefs pâtissiers stars ont fondé leur réputation dessus. Cité par le Larousse gastronomique comme le nombril du moine, ce petit gâteau sec aurait des origines tantôt religieuses, tantôt royales, Catherine de Médicis l'ayant importé d'Italie quand elle rejoignit la famille royale française. La première évocation de ces biscuits à pâte molle, devenu grand classique de la pâtisserie française, daterait de 1752 dans un livre de Rabelais, quand le mot apparaît lui un siècle plus tard. Le macaron est à l'honneur dans Les Bonnes Choses ce midi, avec trois maisons parmi les plus réputées de France. Miguel Telleria Adam, bonjour à vous.
Bonjour.
De la maison Adam à Saint-Jean-de-Luz. Nicolas Genot, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef pâtissier directeur de la maison des Sœurs Macaron, emblème de la ville de Nancy. Et Nadia Fermigier, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la chef pâtissière des Macarons de Saint-Émilion. La maison Adam date de 1660, la maison des Sœurs Macaron de Nancy de 1793, la maison de Saint-Émilion de 1620. Nous avons avec nous quelqu'un qui date du 20e siècle et qui va faire le lien entre les trois maisons et même peut-être plus de France. C'est un journaliste spécialisé en pâtisserie, rédacteur en chef du journal du pâtissier. Franck Lacroix est en studio avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et je précise que vous êtes un peu plus spécialiste des macarons parisien.
Oui.
Quelle est la différence entre les macarons parisiens et les macarons dont on va parler de la maison Adam, Saint-Jean-de-Luz, puisqu'on fait le tour de France, hein, ouais. Nancy et Saint-Émilion?
En fait, grand respect, ce sont les ancêtres. Et tout a commencé par là. En fait, les puissants et les riches ont traversé les pays et à chaque mariage, on leur faisait des mets salés, mais aussi sucrés. Et c'est comme ça que le macaron est né dans un mariage. Et après, celui qui l'a créé, bah, il l'a mis dans sa boutique. Et puis, c'était très chic dans le patelin de dire « Moi, je vais manger le macaron de la reine. Et vous ? Oh, moi aussi, d'accord. Ok, dire. » Et puis, ça a continué comme ça. Et puis, les pâtissiers, qui sont des métiers très difficiles, mais très voyageurs, ont commencé à passer les routes de France. Et puis, à un moment, on arrive à Paris parce que c'est la capitale, parce que c'est là où il y a la cour, c'est là où il y a tout, les pouvoirs, les riches, les clients, les touristes, tout. Et à Paris, d'un seul coup, on va saisir cette matière-là, j'allais dire, pas un brouillon, hein, parce que c'est pas des brouillons du tout, hein, les macarons de Nancy et compagnie, hein, pas du tout. Mais on va saisir ça et on va l'améliorer. Alors on va mettre ici un peu de crémeux, un peu d'onctueux, et puis on va le faire encore plus rond, on va le faire craqueler ou pas, chacun met son style. On a une chef pâtissière au bout du fil, elle vous dira, elle a un style, elle aussi. Et puis au fur et à mesure, ben, ça va plaire. Et puis on va arriver dans les années beaucoup plus tard, hein, les années 80, où Pierre Hermé et travaille chez La Durée, après avoir travaillé chez Fauchon, où il a recréé des classiques encore. Une fois qu'il est chez La Durée a des gros moyens. Et à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc on commence à parler du macaron parisien dans les journaux. Et quand on parle de macaron parisien dans Elle, la lectrice de l'hebdomadaire, elle veut dans sa ville avoir ce produit-là. Et petit à petit, le macaron tout rond va commencer sa route en rebondissant sur les routes de France.
Et il a pris quand même des formes, des goûts, des saveurs très différentes au fur et à mesure. On va remonter donc aux origines. Le premier, si je ne m'abuse, c'est celui des macarons de Saint-Émilion, Nadia Fermigier. Le macaron qui, à Saint-Émilion, et après le vin, l'autre spécialité de Saint-Émilion, encore plus ancien que le macaron des sœurs, puisqu'il a été fabriqué dès 1620 par une communauté religieuse, les Ursulines. N'est-ce pas, Nadia Fermigier?
Oui, c'est exactement ça. Ce macaron a été inventé par les Ursulines, une des religieuses, et c'est resté à Saint-Émilion tout le temps depuis 1620. Il n'y a pas eu d'arrêt de ce macaron. Et là, donc, on continue à le fabriquer justement selon la recette des anciennes religieuses. On est les derniers à travailler avec la recette des anciennes religieuses. On ne peut pas inventer comme le nouveau macaron, enfin comme le macaron de couleur de Paris, on ne peut pas s'improviser, on ne peut pas inventer. On reste vraiment dans la tradition. C'est ça le plus important. C'est de respecter toutes les règles qui sont depuis le début, quoi. Les produits, tout doit rester identique, les produits de matière première. Enfin, vraiment, faut que ça reste authentique. Et on y travaille énormément parce que ça, c'est le plus important pour nous. De ne pas essayer de dévier pour gagner du temps. Voilà. On reste authentique.
Ce qui est assez drôle avec le macaron, c'est que quand on parle des origines ou quand on parle des histoires, comme il est très vieux, le macaron, il est auréolé de plein de légendes, de plein d'histoires. Par exemple, sur la forme ronde, une légende italienne raconte qu'un moine se serait endormi un jour en fabriquant les macarons, qui est donc peut-être l'ancêtre italien du macaron. Son nombril aurait atterri sur la pâte et aurait façonné la forme arrondie. Nadia Fermigier, cette forme arrondie, eh bien les sœurs des Ursulines l'ont reprise, cette forme arrondie. Il est rond, votre macaron.
Oui, tout à fait. Il est rond, il est la taille du macaron de couleur. Et là, c'est la même taille, c'est vrai que c'est l'ancêtre. Hein. Et il est rond, un petit peu aplati. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que ça pourrait ressembler à un nombril, mais pas tout à fait quand même.
Alors la recette a failli se perdre à la Révolution en raison de la destruction du couvent, de la dispersion des moniales qui s'en est suivie. Hein. Et la légende veut que ce soit Mademoiselle Boutin, l'une des sœurs ursulines, qui ait proposé de dévoiler la recette pour échapper à une extrême pauvreté.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Elle a vendu cette recette pour récupérer un peu d'argent. Elle l'a vendue, elle s'est vendue. Il y avait deux ou trois familles sur Saint-Émilion qui avaient la recette des Ursulines. Et ça s'est éteint petit à petit. Et il ne restait plus que la famille Blanchet. J'ai repris derrière la famille Blanchet.
Bah oui, j'allais vous demander comment c'est arrivé jusqu'à vous, en 2008.
Ah oui, c'est arrivé jusqu'à moi parce que comme j'étais pâtissière avec mon père, et je fabriquais pour Madame Blanchet les cannelés. Elle vendait des cannelés avec ses macarons. Et elle me connaissait bien depuis l'âge de 4 ans. Je connaissais Madame Blanchet. Et quand elle a voulu arrêter, elle cherchait quelqu'un qui voulait vraiment reprendre, mais dans la tradition. Ne pas transformer les choses, ne pas essayer de faire autre chose de ce petit macaron. Et elle me faisait entièrement confiance. C'est pour ça que j'ai été choisie par Madame Blanchet et Monsieur Blanchet.
Et c'est un savoir-faire qui est transmis de main en main par des femmes oui. À d'autres femmes. Hein. Ça, c'est le propre des macarons de Saint-Émilion dont vous avez aujourd'hui, Nadia Fermigier, la charge. Alors, si on avance un peu dans le temps, on passe en 1660. 1660, c'est la maison Adam, donc à Saint-Jean-de-Luz. L'histoire familiale, Miguel Telleria Adam, raconte que votre ancêtre aurait apporté un plateau de macarons à Louis XIV pour son mariage.
C'est ça. Et du coup, chaque commerçant de la ville et chaque famille aurait offert donc au roi Louis XIV, lors de son mariage, toutes les spécialités locales, et notamment le macaron de Saint-Jean-de-Luz, qui était un dessert ménager à l'origine, et qui aurait beaucoup plu au roi et à la reine, et c'est de là que commence un petit peu l'histoire de notre maison.
Alors là, ça n'a rien de religieux, c'est plutôt une origine royale, disons. Hein. À la différence d'ailleurs de Nicolas Génaud, de la maison des Sœurs Macaron, emblème de la ville de Nancy, puisqu'en 1793, Nicolas Génaud, c'est la naissance de ses sœurs, de ses macarons à Nancy, et c'est un macaron fait par des sœurs, par deux sœurs, je crois.
Exactement, par deux sœurs converses. Donc, qui faisait les tâches ménagères au sein du couvent. Alors, moi, c'est très récent hein, par rapport à mes deux confrères, parce que la recette, elle est restée jalousement au couvent, donc jusqu'à la Révolution française. Hein, elle était faite par ces deux sœurs converses. Et puis, à la Révolution française, là, effectivement, suppression des congrégations religieuses. Et donc, elles sont réfugiées dans une rue à proximité du couvent où elles ont commencé. Alors, l'histoire de la maison, elle commence là. Elles ont commencé pour faire face à leurs besoins. Et ben, elles ont commercialisé la recette qu'elles faisaient au couvent.
Oui, presque pour remercier c'était un médecin, on dit que c'était un médecin. Enfin, la légende dit que c'était un médecin qui les a hébergés, chez qui elles se sont réfugiées. Et donc, c'est pour le remercier qu'elles se sont mises à faire des macarons. C'est ça l'idée.
Ben, à la fois pour le remercier, et puis pour après aussi payer un peu le loyer, parce que c'est là qu'elles ont installé leur petit laboratoire. Et puis, Et puis c'est resté, vous voyez, de 1793, c'est resté jusqu'en 1980, dans la rue où elles se sont réfugiées, la fabrication est restée jusqu'en 1980, parce que contrairement à mes confrères, nous on n'a pas la recette depuis, naturellement, la famille, pas depuis cette date-là. On est seulement, il y a eu quand même 4 familles totalement différentes qui ont eu ce secret de fabrication.
Voilà. Dans la longue lignée familiale. Vous savez, ça fait 25 ans.
Exactement, oui. Mon père, alors 25 ans, même un peu plus, parce que c'est mon père, parce qu'à Nancy, effectivement, il y a ce macaron des sœurs, mais il y a des macarons de Nancy qui sont faits par bon nombre de pâtissiers. Et mon père était pâtissier de métier, a été pâtissier pendant, parce que nous on venait des Vosges, on s'est installé, la famille est arrivée en 70 à Nancy, et pendant 21 ans, mon père était pâtissier à Nancy, et il faisait des macarons de Nancy, mais il jalousait, entre guillemets, ce macaron-là, ce macaron des sœurs, parce qu'il dit, j'ai beau, c'est pour ça qu'on parle aussi de secret, parce qu'il dit, j'ai beau retourner la recette dans tous les sens, je n'arrive pas à arriver à ce niveau de qualité, de conservation et de goût du macaron des sœurs. Et il a eu l'opportunité en 1991, donc notre prédécesseur, la famille Abtel, a eu 3 générations et la quatrième n'a pas repris. Donc mon père a eu l'opportunité de racheter donc ce secret de fabrication et ce fonds de commerce en 1991.
Et c'est devenu un incontournable de la gastronomie lorraine, hein, le macaron. Il y a même une rue des Sœurs Macaron à Nancy. Vous, Miguel Telleria Adam, à Saint-Jean-de-Luz, je crois que vous êtes, avec votre frère Andoni, la 13e génération, puisque Maison Adam, je le rappelle, existe depuis 1660, mais vous êtes la 13e génération. En gros, vous avez grandi dans le laboratoire où on fabrique la pâte.
C'est ça. Moi, si vous voulez, c'est également un secret de fabrication, le macaron, qui se transmet de génération en génération. Et la spécificité de notre entreprise, c'est qu'il n'y a que la direction qui réalise la pâte à macaron. Donc, l'après-midi, en laboratoire fermé. Et depuis enfant, si vous voulez, notre père venait nous chercher à la sortie de l'école et nous amenait donc au laboratoire. Il nous disait de nous asseoir sur le marbre et de le regarder faire le secret. Et c'est quelque chose donc on a baigné dedans depuis notre tendre enfance, et c'est devenu un petit peu naturellement de reprendre l'entreprise entre frangins.
Franck Lacroix, on va parler des goûts, bien sûr, hein, dans quelques minutes, de la spécificité de chacun et chacune. Mais c'est quand même intéressant de voir, vous racontiez comment, en pâtisserie, c'est assez fréquent, les choses arrivent quelque part et puis ça se répand au fur et à mesure, bien sûr, de l'histoire et de la géographie. Mais là, en l'occurrence, de Saint-Jean-de-Luz à Nancy, donc on est vraiment, on trace une ligne presque droite, presque, un peu oblique, mais d'est en ouest, et on retrouve un même petit gâteau. Il n'y a qu'à Paris, et c'est aussi pour ça que je vous ai fait venir, Franck Lacroix, en tant que non seulement rédacteur en chef du journal du pâtissier, mais très bon connaisseur des macarons La Durée, hein, et Père Hermé, puisqu'il a travaillé chez La Durée. Il n'y a qu'à Paris que vraiment on change complètement de registre avec des gâteaux qui sont plus très à l'amande, mais qui ont des parfums très différents, des couleurs très différentes, et même des épaisseurs très différentes. Ça n'a presque plus rien à voir avec ce dont on parle.
Alors Paris, c'est un monstre, hein, Paris. Quand on dit Paris-Babylone, c'est un peu ça. C'est-à-dire, Paris prend toutes les aspirations, les inspirations de toutes les villes et régions de France et en font, et en fait son produit. Le macaron parisien, parce que il est à Paris. Et puis il est à Paris parce qu'il y a tellement de touristes. On est à 42 millions de touristes. Sur le pays, la France, on a plus de touristes que d'habitants quand même. Tous ces touristes qui viennent, ils achètent tous ces produits. Et après, à l'étranger, ils veulent les retrouver. Et c'est là qu'on retrouve nos pâtissiers français à l'étranger qui sont chefs pâtissiers de gros hôtels, parce qu'il n'y a que les Français qui ont cette technique.
Donc, d'une certaine façon, le macaron est emblématique de la mondialisation de la pâtisserie.
Alors, française.
Il y en a même à New York qui ont...
Ouais. Alors, New York, en fait, c'est une enseigne. C'est Fauchon qui avait essayé de que ça marche là-bas à New York. Et ça, la pâtisserie française a rarement pris. Celle qui marche en ce moment, c'est un Français qui fait un peu américain. Dominique Ancel, qui a inventé le cronut, moitié croissant, moitié donut. Mais pour revenir au macaron, quand Fauchon doit fermer parce que ça marche pas, les Américains vont pas le dimanche. Ils mangent pas des gâteaux. Leurs anniversaires, ils vont au restaurant. Les boutiques n'existent pas. Il y en a peut-être 4 à New York, c'est tout. Lui, il se dit, tiens, on va s'appuyer sur les macarons et les madeleines. On va les fabriquer. On va les vendre en surgelé au club privé où vous payez 100 000 $ l'entrée pour y aller toute l'année. Et puis, on va voir ce qui se passe. Bah, aujourd'hui, ils en sont à 4 ou 5 millions de macarons. Les gens ont adoré. Parce que c'est quand même, dans ce petit truc de 18-20 grammes, vous avez quand même tous les pays du monde. Vous en achetez 3 différents. Vous avez de la vanille d'ici, de la gousse de là, du chocolat d'ici. Vous voyagez, vous l'offrez. C'est rigolo, c'est tout rond, on dirait un truc d'enfant. C'est bombé, ça vous embrase de saveurs extraordinaires, qu'ils soient des ancêtres ou qu'ils soient des nouveaux. C'est fabuleux. Et tout ça en si peu de temps. Si peu de place.
C'est tout petit, c'est tout petit, c'est ce qu'on va voir effectivement dans quelques secondes.
On fabrique les macarons avec des amandes douces, chez nous toujours, des amandes amères, du blanc d'œuf et du sucre. Nous cassons nos œufs et lorsque nos amandes sont écrasées dans une machine qui les broie avec des rouleaux de marbre, nous mélangeons le tout avec nos blancs battus en neige. Et une fois que les blancs sont bien montés, nous mélangeons notre sucre et notre pâte avec.
Alors Nadia Fermigier, c'est difficile de parler des recettes des macarons parce que dans chaque maison, on a bien compris que c'était un secret bien gardé. Mais n'empêche que ce qu'on vient d'entendre, c'est une archive INA de 1994. La patronne de la pâtisserie à ce moment-là nous donne bien les clés de sa fabrication. Alors pourquoi ne nous le donnez-vous pas?
Ah, parce que c'est pas si... Enfin, c'est la face facile. Parce qu'il y a quand même énormément d'étapes pour qu'il soit vraiment fabriqué tel qu'il est fabriqué. Déjà, nous, on utilise des amandes brutes, donc on est obligé de les enlever, de les émonder à la main. On enlève la peau. Enfin, c'est très long, le processus est très long. Il y a des temps de pause, il y a des choses qui sont à respecter. Et après, évidemment, voilà, on fait un mélange, mais ça ne se fait pas comme ça, quoi. Enfin... Il y a des proportions aussi, parce qu'il y a plusieurs, il y a deux sortes d'amandes dans nos macarons.
C'est-à-dire ?
Un peu d'amandes douces. Amande douce et amande amère, il y a les deux.
Ce qui donne un goût d'amande assez prononcé, un goût d'amande assez prononcé qu'on retrouve aussi dans les macarons des sœurs de Nancy, Nicolas Genot. Pareil, hein, on ne donne pas sa recette, mais ça reste un petit gâteau sec à base de blanc d'œuf, d'amande et de sucre. Ça, on est tous d'accord. Nicolas
absolument.
Genot. On n'ira pas plus loin.
Absolument, et... on peut pousser, hein, l'ingrédient, on en a déjà dit beaucoup, mais comme dit ma consoeur, hein, on est, je veux dire, vous savez, ces trois ingrédients-là, c'est quand même, on sait que la pâtisserie, c'est une affaire de précision. Et il faut prendre aussi le temps de faire les choses. Et avec trois ingrédients, vous pouvez faire un tas de recettes différentes. Hein. Nous, on doit avoir le processus doit être assez proche parce que quand j'écoute mes confrères, on est assez proche, on doit être assez proche dans les étapes. Mais quand vous avez goûté les macarons, ils ont une texture. Ces trois macarons, ils ont une texture différente. Hein. On peut guère aller plus loin. Ce que je vais juste spécifier chez nous, c'est que bon, c'est uniquement de l'amande française parce qu'on travaille, vous savez, le RSE, on parle beaucoup de RSE aujourd'hui, l'environnement, enfin, je crois aussi que c'est la préoccupation de tout le monde, mais l'aspect environnemental est important et nous, de notre côté, on a même investi dans des champs pour planter nos propres amandiers.
Alors, il faut quand même que vous nous le présentiez.
Pour moins dépendre de la demande.
Il faut quand même que vous nous le présentiez, Nicolas Genot, votre macaron des sœurs à Nancy. Il est relativement plat. Le diamètre, tout à l'heure, Franck Lacroix disait, c'est petit. Mais le diamètre du macaron de Nancy, il est relativement gros. Enfin, il est plus gros, il est plus comme un cookie que comme un petit macaron. Et il est croustillant à l'extérieur et assez moelleux à l'intérieur. Est-ce que je l'ai bien présenté?
Tout à fait.
Il a un fort goût d'amande.
Oui, ça c'est heureusement. c'est important, c'est le but recherché, et c'est pour ça qu'on reste sur cet aspect-là, parce qu'on a quelques pressions aussi pour mettre des parfums ou des choses comme ça, mais comme l'a dit Franck, ça, pour notre part, et je crois que mes confrères, c'est la même chose, on laisse ça aux autres, les parfums. Nous, on est les gardiens, quelque part, de la tradition. Donc, je vais dire que ma texture, elle est proche, c'est un macaron meringué. Parce que la meringue, c'est aussi craquant. Et moi, il y a une spécificité, c'est que effectivement, ils sont pas forcément tout le temps moelleux. Là, il y a un vrai conseil de dégustation à donner, parce que il est très sensible à la météo. Moi, je peux vous dire la météo du lendemain, le jour où je fabrique mes macarons. Et là, j'ai un peu comme un baromètre. C'est-à-dire quand il fait froid, c'est comme une meringue, il peut être très sec. Parce que quand je le sors du four, quand il refroidit, il durcit. Et il revient moelleux avec le naturel, avec le taux d'humidité ambiant. Donc c'est pour ça, quelquefois, quand il fait très sec, et là on a quand même des allers-retours, même si en majeur on a de l'humidité aujourd'hui, c'est pour ça que quelquefois les gens sont surpris en disant « Oh là là, il est un peu dur aujourd'hui ». Donc là, il y a une petite astuce, soit on le met au-dessus de sa tasse de thé ou de café.
Pour le réchauffer un peu.
Pour remettre un peu de vapeur naturelle, voilà.
Alors on va demander...
Alors on devrait, naturellement... Je devrais pas trop le dire, mais avec là aussi le monde évolue. Mais il y a quelque chose qui marche très très bien aussi, c'est quand ils sont vraiment durs et les gens ont de moins en moins de temps aussi. Aujourd'hui, si vous les mettez, voyez, parce que nous dans l'Est, quelquefois, bon, même s'il y a de moins en moins de temps, mais s'ils sont très durs, vous pouvez les mettre 10 secondes au micro-ondes, ça marche super.
Alors, j'ai quand même un goûteur à mes côtés, en la personne de Franck Lacroix, à qui je vais demander de goûter au moins deux des macarons dont nous disposons. Nous avons un macaron de la maison Adam, qui est particulièrement moelleux, et nous avons un macaron de Saint-Émilion de Nadia Fermigier. Alors, Franck Lacroix est en train de croquer, je crois qu'il a commencé par croquer dans celui de Nadia Fermigier, de la maison...
C'est moelleux, c'est craquant à l'extérieur. On sent qu'il y a plein de petits bonheurs à l'intérieur. On sent qu'il y a une maîtrise, bien sûr, hein, bah ça, of course. Par contre, Caroline, ne vous étonnez pas s'ils ne veulent pas vous donner la recette, parce que les recettes ne sont pas protégées en pâtisserie. Il n'y a que la forme qui est protégée. Donc, si vous donnez une recette, vous êtes mort. Par contre, on peut protéger une forme. Imaginez si votre grand-père avait déposé la forme de la religieuse. Ce serait extraordinaire. Alors, lui, il est très moelleux, très... Bon, parfait.
Et on continue sur le macaron, donc, de la maison Adam. Particulièrement moelleux, un tout petit peu plus gros que celui de Nadia Fermigier.
Ouais.
Quel goût a-t-il ?
Un peu plus dur, moins moelleux, mais alors, ils recèlent... Ils sont au téléphone, là, non ?
Ils
mettent de la vanille,
ils
mettent de la vanille dedans ?
Ah ! Miguel Telleria Adam, est-ce que vous mettez de la vanille ?
C'est un secret de fabrication.
Bon, vous en sortez bien.
Donc, c'est un secret de fabrication. Admettons qu'ils mettent de la vanille, c'est un des goûts préférés parce qu'il est raffiné de tous les palais français, en tout cas.
C'est addictif. Il a peut-être un peu le goût, moi, qu'il ait goûté avant d'entrer dans le studio pour pouvoir continuer de vous parler. Il a peut-être un peu plus de goût de sucre et de vanille que d'amande, alors que celui de Nadia Fermigier me semble beaucoup plus amandé, comme celui d'ailleurs de la maison des Sœurs Macaron à Nancy. Vous mettez quoi comme amande, Miguel Telleria Adam, même si vous restez sur le secret de fabrication lié à la vanille ?
Bien sûr, nous, on travaille de l'amande espagnole. Et après, comme mes confrères, on a quand même un travail de l'amande qui est propre à notre recette. Et pour avoir goûté donc les macarons de mes confrères, je pense qu'on le pousse un petit peu plus à la cuisson pour aller chercher une couleur un petit peu plus mordorée et ce petit côté caramel un petit peu qu'on peut avoir sur ce côté craquant, notamment autour du macaron, et qui fait ressortir un petit peu plus le côté sucré, le côté caramélisé, que le côté amande.
Il est presque plus addictif, en fait, mais...
C'est une vraie gourmandise.
C'est une vraie gourmandise. Mmh. C'est une vraie gourmandise. Nadia Fermigier, vous non plus, vous n'avez jamais eu envie de créer des couleurs et des parfums différents ? Vous tenez à cette idée de gardien de la tradition, comme le disait Nicolas Genot ?
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Non, non, nous ne voulons absolument pas mettre de la couleur ou du. C'est vraiment ce macaron-là, traditionnel. Nous avons vraiment beaucoup de personnes qui l'adorent et qui viennent exprès pour chercher ce macaron-là. Et on ne veut absolument pas le changer parce qu'il est trop. Enfin, il est délicieux déjà. Et on respecte tout. C'est vraiment. On fait partie du patrimoine à Saint-Émilion, si vous voulez, avec le vin, puisque ça se déguste aussi avec le vin. On a des dégustations qui se font de notre macaron avec le vin. Et c'était à l'origine, c'était comme ça. Et ça continue dans certains châteaux, dans les grands châteaux, ils continuent à faire des dégustations. Et si vous voulez, on veut garder l'origine de ce macaron. Quoi. On ne veut pas perdre...
Garder la constance. Alors, ouais, comme vous ne donnez pas vos recettes de fabrication, on a bien compris, mais je suis allée voir, moi, dans le cahier de recettes de Catherine de Médicis et autres dames illustres du château de Chenonceau, un livre édité par Albin Michel, la recette que donne Catherine de Médicis, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle serait même à l'origine de l'importation d'Italie du macaron, comment elle faisait les macarons à la groseille. Eh bien, elle l'écrit dans son cahier. Pour les coques, 100 grammes de poudre d'amande, 225 g de sucre glace, 25 g de sucre en poudre, 3 blancs d'œufs, une pointe de couteau de colorant alimentaire rouge en poudre. Et pour la garniture, 250 g de groseille, je rappelle que c'est des macarons à la groseille, donc 250 g de groseille, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 demi-citron en jus et 2 feuilles de gélatine. Vous en pensez quoi les uns les autres? Est-ce que ça ressemble un peu à votre recette initiale? Qu'est-ce qu'il y a en trop? Qu'est-ce qu'il y a de pas assez? Nicolas Genot, rapidement.
Ah ben, il y a quelques ingrédients qu'on reprendrait bien, mais on enlève tout ce qui est groseille.
Bien sûr, on enlève tout ce qui est groseille. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Lacroix ?
Oh ben, j'en pense que l'intérêt de la pâtisserie, c'est que chaque jour, dans un coin de France, il y a un pâtissier qui dit « qu'est-ce que je vais faire de nouveau ? Qu'est-ce que je vais ?» Et si je changeais cet ingrédient ? Et si j'inversais la cuisson ? Et ils sont tellement pleins d'inventivité que chaque semaine, dans les... 36 000 communes de France, mesdames, messieurs, profitez de vos pâtissiers, ils vous proposent des choses excellentes, inouïes et historiques.
Et on peut les conserver, on les conserve 10 à 12 jours dans le bas du réfrigérateur et on les sort, ces macarons, à peu près 2 heures avant de les déguster. C'est important pour qu'ils retrouvent à la fois leur croustillant et leur moelleux. La maison Adam à Saint-Jean-de-Luz, on les trouve à Saint-Jean-de-Luz, mais elle peut aussi livrer sur toute la France. Miguel Telleria Adam, je crois que c'est vrai. Nicolas Genot, c'est la même chose avec la maison des Sœurs Macarons de Nancy et idem pour Nadia Fermigier des Macarons de Saint-Émilion. On les trouve sur place et on les trouve en livraison. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir présenté rapidement vos macarons, macarons ancestraux, macarons traditionnels, macarons délicieux. Merci à vous, Franck Lacroix, d'être venu nous faire le lien, comme je le disais, entre ces macarons-là et les macarons dits parisiens, qui sont, d'accord, on l'a compris, plus colorés, plus diversifiés, mais pas forcément meilleurs, chacun son goût. Merci beaucoup donc à tous les quatre. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe. C'est Séam Boutata à la documentation, Colin Gruel à la réalisation et aujourd'hui Sébastien Royer à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.